Voilà, et si j'ai bien compris, vous êtes sur le thème de la famille. Et donc, je me devais premièrement de vous présenter ma famille. Voilà, au moins, vous savez que je sais un peu de quoi je parle. La famille, nous sommes très heureux, disais-je, d'être avec vous. Nous sommes très heureux aussi d'être au Canada, dans le Nouveau-Brunswick, puisque peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas. Ça ne fait pas très longtemps qu'on est là, depuis le mois de juillet 2025. Et on a pris donc l'église de chez Diac, le centre Nouvelle Vie chez Diac, depuis le 1er août 2025. Et par la grâce de Dieu, donc, l'église nous a accueillis de fort belle manière. Et nous avons pu commencer à exercer le ministère là-bas. Et le Seigneur commence à travailler également. L'œuvre était déjà présente. Mais par la grâce de Dieu, il est en train d'avancer petit à petit par la grâce du Seigneur et nous en sommes heureux. Et nous sommes aussi heureux de découvrir ce beau pays que nous ne connaissions pas avant. Nous n'étions venus qu'une fois en vacances découvertes, on va dire, pour voir là où le Seigneur voulait nous mener. Mais le Seigneur a pu confirmer les choses. On vient de France et plus précisément, pour ceux qui connaissent, de l'île de la Réunion. Oui, une petite île dans l'océan Indien, à côté de l'île Maurice, et un département français. Et on a pu grandir et exercer également le ministère là-bas pendant une vingtaine d'années, avant de pouvoir venir ici, là où le Seigneur nous appelait. Voilà. Voilà un peu pour les présentations. Et je découvre en même temps votre belle église, qui, elle aussi, d'après ce que j'ai compris, cherche aussi un pasteur. Voilà, continuez de prier, parce que apparemment le Seigneur exauce, hein, j'en suis la preuve. Le Seigneur exauce et le Seigneur peut appeler des ouvriers dans le Canada ou hors du Canada, il est souverain. Alléluia. Ce matin, nous voyons ensemble ce thème magnifique de la famille. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager la solution. Vous savez, quand on parle de la famille, on parle forcément d'un sujet qui est problématique dans notre société. Problématique à cause de tout le ravage qui s'y trouve. La famille est complètement disloquée aujourd'hui, complètement détruite en termes de valeurs, avec un chaos qui est un constat. Mais je ne suis pas là pour vous faire l'étalage du chaos que vous voyez déjà, que nous voyons tous ensemble. Une famille en perte de valeur morale, mais je ne suis pas là non plus pour la morale. Nous ne sommes pas des moralisateurs, quoique l'Évangile ne manque pas de bons principes pour la famille. Mais à quoi cela servirait-il si les uns et les autres n'ont pas la force d'accomplir ce que Dieu demande ? Mon propos ce matin, c'est plutôt de vous apporter la solution, et la solution pour une famille détruite, pour une famille en mal, pour une famille disloquée, la solution, c'est l'Évangile. Et la solution, c'est le Seigneur Jésus. On va lire ensemble un passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 9. Voilà, juste le temps de mettre mes verres. Merci. Matthieu chapitre 19, versets 3 à 9, où Jésus a quand même un échange sur le thème, sur ce thème justement de la famille et plus précisément du couple avec les religieux de cette époque. Voilà ce qui nous est dit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. C'est un thème très sensible, n'est-ce pas ? Ici, il s'agit du mariage, du divorce. Un thème très sensible, puisque les pharisiens disent à Jésus, « Mais Moïse nous a permis le divorce. » Mais Jésus leur dit, « Oui, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. » Moïse a permis, Dieu a permis, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais ce matin, voulons-nous faire la différence entre ce que Dieu permet et ce que Dieu veut ? Nous sommes tous conscients de ce que c'est. Il y a beaucoup de parents, n'est-ce pas, dans cette salle ? Nous avons des enfants. Nous savons faire la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on permet. Il y a des choses que l'on permet à nos enfants de faire, mais qu'on ne veut pas forcément, n'est-ce pas ? Mais on permet. Voilà. Parce que l'enfant voulait, on pèse les pour et les contre, et on dit on permet. Pour ne pas trop mettre de pression sur l'enfant, on permet. Mais parfois, ce que l'on veut est tout autre. En tant que chrétien, voulons-nous chercher ce que Dieu veut ou ce que Dieu permet ? Le Seigneur, il parle ici de la permission de Dieu, de la permissivité de Dieu par rapport à la dureté du cœur. La dureté du cœur. D'où vient la dureté du cœur ? La dureté du cœur vient du péché. Voilà pourquoi Jésus ramène les regards, la référence à ce qui était avant le péché. Au commencement, Jésus dit, vous voyez, au commencement, ce n'était pas comme ça. Il n'en était pas ainsi. Et c'est comme si que le Seigneur nous ramenait à ce fameux commencement, là où Dieu crée les choses parfaitement. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Il crée la femme à son image, à sa ressemblance. Et il les unit. Et Jésus rappelle le principe du commencement. Le Créateur va dire qu'ils ne sont plus deux. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Jésus est en train de leur dire que Dieu a créé les choses de cette manière. Il a créé l'homme de cette manière, voyant qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu crée la femme de cette manière. Pour que l'homme soit heureux, pour que la femme soit heureuse, pour que les deux ensemble soient heureux. Et voilà comment Dieu crée le mariage. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas Moïse. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de tradition, il n'y avait pas d'homme religieux, il n'y avait pas d'officier d'état civil. Il y avait Dieu, l'homme et la femme. Et Dieu crée le mariage. Et à partir du mariage, Dieu crée la famille. Et nous devons comprendre que la famille elle-même, les valeurs de la famille viennent de Dieu. La famille vient de Dieu. La famille est une création divine. Voilà pourquoi nous devons regarder au Créateur, va dire Jésus, le Créateur. Le Créateur. Car c'est lui qui crée l'homme, c'est lui qui crée la femme, c'est lui qui crée la famille. On m'a dit qu'Edmund Stone était à la frontière américaine. De l'autre côté, ce sont déjà les États-Unis. Mais on m'a dit que même de l'autre côté, on parlait encore français. Alors, peut-être que vous connaissez l'histoire de cet homme de l'autre côté, qui, il y a quelques dizaines d'années de cela, alors que l'automobile était créée depuis pas longtemps, s'était acheté une voiture, je ne fais pas de publicité, mais vous comprendrez pourquoi je cite la marque, c'était une Ford. Et parmi les premières Ford qui étaient produites, qui étaient sorties d'usine, cet homme était content, donc il conduisait son auto en pleine campagne américaine sur les grandes routes, et tout d'un coup, la voiture tombe en panne. Alors il s'est dit, mais comment faire ? Il s'arrête, et il commence à observer la voiture, à soulever un peu, à regarder, à essayer de redémarrer, ça ne repart pas. Il est bien embêté, il ne sait pas comment faire. Quand tout d'un coup, quelqu'un passe par là avec sa voiture aussi. C'était une plus belle voiture, mais c'était toujours une Ford. Et l'homme qui était au volant de cette autre Ford magnifique, qui était habillé d'un costume avec un beau chapeau, il voit l'autre en difficulté, il s'arrête et il sort de son véhicule, il enlève ses gants et il salue le monsieur qui est en panne. « Salut mon brave, il y a un problème avec votre voiture ?» Bien sûr, en anglais, je ne saurais pas le faire. Hein. Mais l'autre dit « Oui, merci de vous être arrêté. En effet, elle ne démarre plus. » Et le monsieur en costume va lui dire « Laissez-moi jeter un œil. » Il regarde juste et il dit « Mettez-vous au volant. » L'homme qui est en panne se met au volant de sa voiture. Et le monsieur en costume va avancer sa main à un endroit, va juste tourner quelque chose et va lui dire « Maintenant, démarrez. » Et le brave monsieur démarre et la voiture repart. Elle dit « Waouh, mais comment vous avez fait ? Je suis en train de chercher la panne depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, mon bon monsieur. » Et l'autre lui dit « De rien. Mais dites-moi, vous ne vous êtes pas présenté, va dire l'homme qui était en panne. À qui ai-je affaire ? » Et l'autre monsieur en costume lui dit « Monsieur Ford. » C'est lui qui avait créé cette voiture. Il savait exactement comment faire pour que la panne soit résolue. Juste avancer la main. Il a tourné juste quelque chose parce qu'il connaissait parfaitement le fonctionnement de cette voiture. Vous voyez où je veux en venir ? C'est le Seigneur qui nous a fait. C'est le Seigneur qui a fait la famille. Il a fait le couple. C'est le Seigneur qui crée les valeurs de la famille. Il sait exactement comment solutionner. Beaucoup ont cru que l'évangile est une religion. L'évangile n'est pas une religion. Beaucoup ont cru que l'évangile, c'était la morale dont les hommes avaient besoin. Beaucoup ont cru que les prédicateurs de l'évangile étaient des moralisateurs de la société en disant qu'il faut faire comme ça et puis faire comme ça. Non, l'évangile n'est pas une religion. L'évangile n'est pas une morale. L'évangile, c'est la solution de Dieu. L'évangile, c'est le Seigneur qui agit pour nous et pour notre famille. Genèse chapitre 12, verset 3. Dieu va dire à Abraham, beaucoup plus tard, après le péché, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront béni en toi. » Alléluia. Toutes les familles de la terre. Et je dis merci Seigneur parce que ma famille est une famille de la terre. Ta famille est une famille de la terre. Notre famille est une famille de la terre. Et Dieu dit ici à Abraham, je veux bénir toutes ces familles. Ce n'est pas Abraham qui va bénir les familles, c'est Dieu qui bénit les familles. Dieu a donc forcément, s'il veut bénir, un plan de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance à nous et notre famille. Et beaucoup plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, voilà la solution. Paul et Silas répondirent au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Vous voyez qu'il n'y a pas un point, il y a une virgule après. Toi et ta famille. Alléluia. L'évangile est une solution. quelle est la solution à notre famille? Qui est la solution à notre famille? C'est Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Le geôlier est tout seul, la famille n'est pas avec lui. Crois au Seigneur Jésus, toi, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Ce matin, si je crois dans le Seigneur Jésus, c'est la solution pour moi et pour ma famille. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? Parce que dans ce contexte, en Genèse 12, Dieu appelle Abraham, lève-toi, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Il est en train de dire à cet homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant parce que sa femme était stérile. Il est en train de dire, je vais te donner des enfants. Je vais te donner des petits-enfants. Je vais te donner une postérité. Et qu'est-ce qu'il dit ici, le Seigneur? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est-à-dire dans cette postérité que je vais donner. Et la postérité d'Abraham va être Jésus-Christ. Dieu appelle Abraham, ce n'est pas pour le peuple juif en soi, c'est pour celui qui allait sortir de ce peuple, le Messie, Jésus. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Alors, quelle est la bénédiction pour la famille? Comment le Seigneur peut-il sauver, restaurer et bénir notre famille? C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. En quoi Jésus est-il la solution face au chaos familial? On l'a dit tout à l'heure, le chaos familial vient de la dureté du cœur. C'est ce que Jésus dit. Le chaos familial ne vient pas des circonstances de la terre. Le chaos familial ne vient pas des éléments qui peuvent nous amener parfois à nous disputer, à nous déchirer, à nous éloigner les uns les autres dans une même maison. Le chaos vient de la dureté du cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Et cependant, le Seigneur Jésus parle du commencement comme d'une référence. Là où il n'y avait pas de dureté de cœur, parce que l'homme a été créé avec un cœur pur. La femme a été créée avec un cœur pur. Le commencement est une référence parce que l'homme et la femme étaient en communion avec le Créateur. Voilà pourquoi ils vivaient dans la paix. Le commencement est une référence car l'homme et la femme vivaient dans l'amour de Dieu. Ils s'aimaient de l'amour de Dieu. L'homme aimait sa femme de l'amour que le Seigneur avait mis dans son cœur. La femme aimait son mari de l'amour que le Seigneur avait mis dans son cœur. Voilà l'harmonie du couple et voilà la paix dans la famille. Il y a donc un avant-péché et un après-péché. Forcément, nous nous situons après. Et le péché fait que nous avons hérité de nos pères un cœur dur. Comment faire? Comment faire? Comment retrouver l'harmonie du commencement? Eh bien, Christ est la solution. Premièrement, en ce que Christ aime l'homme. Christ aime la femme. Christ aime le couple. Christ aime la famille. J'aime cette déclaration. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, vous vous rappelez de ce récit de la résurrection de Lazare. Jean 11, verset 5, pardon, il est dit « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. » Jean 11, 3. C'était une fratrie, un frère, deux sœurs. La Bible nous dit que Jésus les aimait. Alléluia. Jésus les aimait. Et bien plus, regardez, il n'est pas dit Jésus aimer cette famille. Il est dit que Jésus les aimait individuellement. Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marie. Jésus aimait Lazare. Jésus aimait chacun. Jésus aime chacun des membres d'une même famille. Voilà pourquoi Jésus intervient souvent dans des familles. Il va ressusciter la belle-mère de Pierre. J'espère que tout le monde aime sa belle-mère. Il va ressusciter la belle-mère de Pierre. Il va guérir, pardon. Elle était atteinte d'une fièvre. Excusez-moi, je suis déjà passé à la résurrection. Et la résurrection, pourquoi ? Parce que Jésus, dans chacune des résurrections qu'il va opérer et qui nous sont citées dans les évangiles, ont lieu dans des cadres familiaux. La fille de Jaïrus. Alléluia. Cet homme vient pour sa famille. Cet homme vient pour sa fille qui va mourir. La fille meurt avant que Jésus et ce père désespéré ne retournent chez lui. Mais pour Jésus, ce n'est pas un problème. Quand on vient dire à Jaïrus, qui est en route, « Ta fille est morte, n'importune plus le maître », Jésus lui dit « Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. » Et Jésus entre dans cette maison. Et Jésus ressuscite cette jeune fille. Alléluia. Le fils de la veuve de Naïn. Jésus, quand il voit cette femme pleurer, il est ému de compassion. Alléluia. À chaque fois qu'une maman pleure pour son enfant, Jésus est ému de compassion. Jésus va intervenir. Il aime la famille. Il touche le cercueil. Et voyez-vous, quand Jésus touche le cercueil, ce n'est plus la mort, c'est la vie. Ce jeune homme, cet homme s'assoit, il reprend vie et il rend. La Bible nous dit que Jésus rendit ce fils à cette maman. Le Seigneur Jésus peut te rendre ton fils. Le Seigneur Jésus peut te rendre ta fille. Le Seigneur Jésus peut te ramener celui ou celle que tu vois comme morte, c'est-à-dire qui est partie de la maison, qui n'a plus donné de nouvelles, qui n'a plus cherché à entrer en contact, qui est parti peut-être dans la haine, dans l'amertume, dans la colère. Le Seigneur Jésus peut toucher. Le Seigneur Jésus peut ramener. Il est la solution. Et enfin, dans Jean 11, il ressuscite Lazare, le frère de ses deux sœurs. Une fille, un fils, un frère. Jésus aime les familles. Alléluia. Jésus aime les familles. La solution est Christ. Et bien sûr que la solution de l'évangile, c'est Christ, mais Christ crucifié. Car si tout à l'heure on a parlé de cœur dur, la croix de Jésus-Christ change les cœurs. Si on a parlé, de communion rompue avec le Père, la croix de Jésus-Christ rétablit cette communion. Si on a parlé de dissension au sein des familles, la croix de Jésus-Christ réconcilie les membres d'une famille. La croix de Jésus est la solution. Et c'est ce que nous allons brièvement détailler ce matin. Alors premièrement, parlons quelques instants du cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur, va dire Jésus. Jérémie chapitre 17, verset 9, nous dit le cœur, bien sûr sous-entendu le cœur de l'homme, de l'être humain, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Parfois, on peut penser être une bonne personne, n'est-ce pas ? On peut penser de soi-même, on est gentil. On n'a jamais rien fait de mal. On n'a jamais commis quoi que ce soit de pendable, de criminel. Oh, je suis beaucoup moins méchant que quelqu'un d'autre. Oui, on peut toujours se comparer aux pires qui sont peut-être en prison, à ceux qui sont pires à nos yeux. Mais il est intéressant de voir ce que le Seigneur pense de nous. Comment Dieu voit les hommes. Et regardez ce qu'il dit, le cœur est tortueux, il est méchant. Le psalmiste va retraduire quelque peu cette déclaration en disant que tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont méchants, tous sont pervertis, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et le Seigneur renferme tous les hommes sans exception dans cette vérité. Le Seigneur, c'est ainsi qu'il voit tous les hommes. L'Ecclésiaste rajoutera dans le chapitre 9, verset 3 de l'Ecclésiaste, donc c'est Salomon ici qui parle. Il va dire « Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté ? Personne. Personne n'est excepté. La folie est dans le cœur de l'homme. La méchanceté. Le cœur de l'homme est plein de méchanceté. Voilà la déclaration. Comment le reconnaît-on ? Même si pour nous, on ne fait de mal à personne. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est très, très parlant. Vous avez remarqué que tout ce qu'on sait aujourd'hui, on l'a appris. On sait lire parce qu'on a appris à lire, n'est-ce pas ? On sait compter parce qu'on a appris à compter. Si on n'avait pas appris à compter, on ne saurait pas. Si on n'avait pas appris à lire, on ne saurait pas. On a appris à marcher. Nos parents, eh bien, nous ont appris à marcher à un moment. On a appris à faire du vélo. On a appris à se brosser les dents. On a appris à écrire. On a appris beaucoup de choses. On a même appris notre prénom. Hein ? C'est parce que nos parents nous ont appelés par le prénom qu'on a su que c'était nous. Mais dites-moi, qui nous a appris à faire le mal ? Qui nous a appris à mentir ? Est-ce qu'il y a une école pour ça ? Qui nous a appris à voler ? Il y a une spécialité à l'université de Moncton, hein, pour apprendre le vol, avec un professeur qui nous dit « Attends, je vais vous montrer comment il faut faire ». Non, personne ne nous a appris. Qui nous a appris à tuer ? Qui nous a appris à dire du mal de quelqu'un ? Personne, c'est incroyable, hein ? Et pourtant, on sait si bien le faire, n'est-ce pas ? Pourquoi ? C'est en nous. C'est en nous. La méchanceté est en nous. Et ainsi, tout ce qui est bien, on a appris. Parce que ce n'était pas en nous. Mais tout ce qui est mal, c'était déjà en nous. C'était déjà en nous. Un enfant, même avant d'être conscient, commence déjà à faire le mal. Parce que le mal est déjà en nous. Le cœur de l'homme. Et Jésus dira, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Ainsi, à cause du péché, le mal est entré dans le cœur de l'homme. Et la Bible nous dit que le mal s'est étendu à toute la création. La mort s'est étendue à toute la création, y compris aux familles. La mort frappe des foyers, je parle ici de mort spirituelle, de mort morale. Les familles sont frappées, le chaos frappe les familles à cause de la dureté de votre cœur. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, accorde une permissivité. Dieu permet certaines choses qu'il n'a jamais voulu. Dans l'Ancien Testament, on voit par exemple la polygamie. Ça n'est jamais venu de Dieu. mais Dieu a permis. Ce n'est pas ce qu'il a voulu. Pourquoi ? Je vais faire la même chose que Jésus, il faut remonter au commencement. Au commencement, Dieu crée un homme et une femme. Il n'a pas créé en voyant, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a dit, on va lui donner 10 femmes. Non, un homme et une femme, c'est ça la volonté de Dieu. Mais à cause de la dureté du cœur de l'homme, Dieu a permis. Vous comprenez ? Il a permis, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Dieu permet le divorce, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Dieu dit lui-même, je hais le divorce, je hais la répudiation. Ce n'est pas ce qu'il veut, à cause de la dureté de nos cœurs. Pourquoi est-ce que je parle de cette permissivité de Dieu ? Parce que parfois, quand Dieu nous laisse aller, nous laisse aller, nous laisse aller, on croit que Dieu est d'accord avec nous. Le Seigneur va dire dans le psalmiste, « Parce que je me suis tu, parce que je n'ai rien dit, tu as cru que j'étais comme toi. » Et parfois, on croit que Dieu est d'accord. Non, Dieu permet par grâce, parce que s'il fallait ne pas permettre, eh bien, beaucoup seraient morts. Si le Seigneur n'avait pas permis, malheureusement, la barre serait beaucoup trop haute. Beaucoup seraient morts. Quelle est la conséquence du péché, de cette dureté du cœur ? Jésus va le dire en Matthieu 15, versets 18 et 19. Matthieu 15, 18, 19. Dans ce contexte, les religieux, vont dire à Jésus, comme un reproche, comment ça se fait que tes disciples passent à table sans s'être lavé les mains ? Jésus va leur dire, attention, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille le cœur de l'homme, qui souille l'homme. C'est ce qui sort. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le péché, le cœur dur, et regardez ce qui sort. N'est-ce pas ce qui détruit les familles ? N'est-ce pas ce qui détruit le couple ? C'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Dans Luc, chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. » Ça, c'est pour l'homme bon, mais tout à l'heure, on a vu que tous sont méchants. « Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Le constat de Dieu, le constat de la parole de Dieu est ainsi. Mais merci Seigneur de ce que Jésus est venu. Merci Seigneur de ce que Jésus aime la famille. Merci Seigneur de ce que Jésus nous aime et de ce qu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Et au travers de ce don de Jésus, qu'est-ce qui nous est prodigué ? Quelle solution nous est apportée ? Dieu l'annonce en Ézéchiel chapitre 26. Pardon, Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Ézéchiel 36, 26. Voilà ce que Dieu va dire. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu dit, votre cœur est dur. Votre cœur est méchant, mais moi, je peux vous donner un cœur nouveau. Je peux vous donner un cœur tendre. Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Le Seigneur dira, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La croix de Jésus est le lieu même où le Seigneur nous donne ce cœur nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, nous connaissons tous ce passage, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. qu'est-ce qui est passé ? Le cœur dur, la méchanceté. Nous sommes de nouvelles créatures par la croix de Jésus. Nous sommes de nouvelles créatures par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus lave nos cœurs de tout péché, de toute méchanceté, de toute dureté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le texte littéral, c'est « il est une nouvelle création ». Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est comme si qu'il disait à ses pharisiens « il faut revenir au commencement ». Mais comment pouvons-nous revenir au commencement avec le cœur dur, le péché ? C'est par la croix. Parce que par la croix, Jésus est en train de dire que la création recommence. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Le Dieu qui a fait au départ peut refaire. Le Seigneur Tout-Puissant qui crée par sa parole peut recréer par sa même parole. Il peut nous changer ce matin. Alléluia. La croix de Jésus peut nous changer ce matin. Et voilà comment la dureté du cœur est résolue. Deuxièmement, la communion avec Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont péché dans ce jardin d'Éden, en Genèse 3, la conséquence désastreuse de ce péché, ce n'a pas été, certes, Dieu l'annonce, comme conséquence, mais ce n'a pas été les douleurs de l'enfantement, même si c'est une conséquence directe. Ce n'a pas été les douleurs et les souffrances du travail pour l'homme, même si c'est une conséquence directe. Ce ne sont pas toutes ces choses. La conséquence la plus terrible, c'est que Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Chassés du jardin d'Éden. Et le psalmiste va dire que c'est justement l'œuvre du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et parce que nous sommes séparés de Dieu, en tant qu'être humain, forcément, en tant que famille, naturellement, nous sommes séparés de Dieu. Or, sur quoi repose l'harmonie d'une famille, l'harmonie d'un couple, l'harmonie d'un père, d'un mari, l'harmonie d'une mère, d'une épouse? Eh bien, cette harmonie repose sur Dieu, sur la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'harmonie. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de paix. Vous vous rappelez ce que disait l'Ecclésiaste ? Deux valent mieux qu'un. Il parlait du couple. Deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre pourra le relever. Si l'un a froid, l'autre pourra réchauffer. Hein, il fait froid à Edmundston. Mais le Seigneur rajoute dans ce même passage, deux valent mieux qu'un, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Vous comptez mieux que moi, je pense. Il est dit, deux valent mieux qu'un, on est à deux, et tout d'un coup, la corde a trois fils. C'est qui le troisième fil ? Alléluia ! C'est le Seigneur. La solidité d'un couple repose sur le Seigneur. Repose sur le Seigneur. Voilà pourquoi, tant que nous demeurons séparés de Dieu, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas d'harmonie. Le mal de notre monde, le mal de notre société, le mal des familles, le mal des couples, le mal des individus ne vient pas de la crise économique. Ne vient pas de la crise financière, ne vient pas du manque de confort ou de matériel, ne vient pas du manque de réussite professionnelle. Ce ne sont pas là les origines des problèmes, ce sont plutôt des conséquences. Mais c'est tout simplement que l'homme est séparé de Dieu. C'est tout simplement que Jésus n'est pas dans les maisons, Jésus n'est pas dans les mariages. Jésus n'est plus le centre d'une nation. Voilà comment un pays tombe en crise. C'est quand ce pays, cette nation abandonne le Seigneur et les valeurs du Seigneur. Il faut être réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens 5, 18 à 21. L'apôtre Paul va dire, et tout cela vient de Dieu. Suite au verset que nous avons dit tout à l'heure. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est la suite. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous réconcilie avec lui par Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors que vous et moi, nous n'avions pas la force d'aller vers Dieu, lui est venu vers nous. Alors que vous et moi, nous n'avions pas les moyens de nous réconcilier avec lui, c'est lui qui nous réconcilie avec lui par le don de son Fils à la croix du calvaire. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'a pas compté nos offenses à la croix du calvaire. Toutes nos offenses sont allées sur son Fils. Il ne nous a pas compté. Normalement, il devait nous compter nos offenses. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ a porté toutes nos offenses en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Voilà ce que nous devons crier à ceux qui veulent l'entendre. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés, retournez à Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, en l'occurrence Jésus, Dieu le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le prophète Ésaïe va dire, non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Non, ses oreilles ne sont pas trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos iniquités qui l'empêchent d'exaucer vos prières. Mes chers amis, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que quand nous croyons dans le Seigneur Jésus, il y a pour nous une réconciliation avec Dieu. Nous redevenons en contact avec Dieu. Nous rentrons en communion avec Dieu, nous pouvons parler à Dieu. Nous pouvons prier Dieu pour notre famille. Et le Seigneur peut nous exaucer. Alléluia. Il nous exauce en Jésus-Christ. Ça, c'est pour la communion. Et enfin, pour l'amour. L'harmonie du couple. L'harmonie d'une famille. Femme, nous dit Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 31. Et il nous est rappelé le principe de la famille à la création. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Verset suivant, chapitre 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ce sont les valeurs de la famille, ce sont les principes. Si vous préférez, c'est le mode d'emploi du constructeur, hein, Monsieur Ford. C'est le mode d'emploi de celui qui crée la famille. Il est en train de nous dire, voilà comment la famille fonctionne. Sauf que si vous et moi, on prend le manuel et qu'on essaie de faire, on n'a pas la force de le faire. En effet, quel homme, quel mari a la force d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église ? C'est impossible. C'est impossible. Notre amour à nous est trop défectueux. On peut essayer par tous les moyens, on peut se forcer par tous les moyens. Chasse le naturel et il revient au galop. Vous vous rendez compte, le naturel prend le cheval. Hein ? Femmes, soyez soumises à vos maris. Respectez votre mari. Pareil, chère sœur, force-toi à le faire. Le naturel va revenir. Par nos propres forces, c'est impossible. Impossible. On va se chercher des arguments pour ne pas respecter ces principes parce qu'on n'a pas la force de le faire. Vous avez remarqué, notre société est comme ça. Quand on n'a pas de solution à un problème, eh bien on finit par dire que le problème n'est pas un problème. Comme ça, il n'y a pas besoin de solution. Comment l'enfant peut-il obéir à ses parents ? Vous avez remarqué aujourd'hui la rébellion dans le cœur des enfants. De plus en plus, de plus en plus. La Bible nous parle des fils de la rébellion. Et les parents qui ne sont pas en reste, puisque ce sont des parents qui de plus en plus irritent leurs enfants. Des pères qui sont absents. Des mères qui n'assument plus. De plus en plus, de plus en plus. On refuse d'élever les enfants. On refuse de corriger les enfants. L'instructeur de nos enfants s'appelle iPhone, iPad, télévision. Voilà les instructeurs de nos enfants. On n'assume plus. Et de plus en plus, on n'assume plus. On n'a pas la force. Alors on préfère se dire, c'est pas de notre faute. C'est comme ça. Le temps est comme ça. L'époque est comme cela. Heureusement que l'évangile n'est pas une morale, on le disait. Heureusement que l'évangile n'est pas une règle à suivre. L'évangile n'est pas un manuel. Ce qui nous est montré, c'est l'excellence. Mais l'excellence n'est pas atteignable par notre nature. Mais Christ est venu. Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Et il est mort à la croix. Afin que l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Par la croix, par sa croix, Jésus nous permet d'aimer comme lui aime. Et si l'amour est la base de notre famille est guérie. Si l'amour de Dieu est la base de tout, frères, sœurs, chers amis, tout change. Si l'amour de Dieu est la base du couple, tout change. Parce que le mari ne va plus se chercher lui, il va chercher son épouse. L'épouse ne va plus se chercher elle, elle va chercher son mari. Les enfants vont accepter volontiers d'être soumis à leurs parents parce que leurs parents vont les aimer. De l'amour du Seigneur. Quand nous sommes aimés, nous aimons être là où nous sommes aimés. Nous aimons être avec ceux qui nous aiment. L'amour changera toute chose. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu est une force. L'amour de Dieu est une puissance qui renverse même les œuvres du diable. Si nous nous aimons les uns les autres, le monde croira. Si nous nous aimons les uns les autres, Satan ne pourra plus avoir sa place. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean va déclarer dans sa première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 et 8, 1 Jean 4, 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour, et par la croix de Christ, Dieu vient dans mon cœur. Si Dieu vient dans mon cœur, l'amour vient dans mon cœur. Si je connais Dieu, j'aime comme Dieu aime. Et si dans ma famille, j'aime comme Dieu aime, les problèmes sont résolus. On peut ne pas avoir d'argent. Mais si j'aime comme Dieu aime, les problèmes sont résolus. On peut ne pas avoir tous les biens de la terre. On peut ne pas avoir telle ou telle capacité. Mais si nous nous aimons les uns les autres, notre famille est heureuse. Notre famille est bénie. Et une famille heureuse, une famille bénie fera une église heureuse, une église bénie. Vous avez remarqué que l'église est composée de familles. Christ est l'architecte de l'église, n'est-ce pas? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts n'y prévaudront point contre elle. Le diable ne peut pas toucher à l'œuvre de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il ne peut pas nous attaquer alors que nous sommes réunis ici, dans le nom du Seigneur Jésus, où va-t-il attaquer d'après vous? Où va-t-il attaquer? Ben chez nous, dans notre maison. Parce qu'ici on est bien, pas vrai? On chante des cantiques, on entend la parole de Dieu, on entend les dons spirituels, etc., etc. On est bien ici. Mais dès qu'on arrive chez nous, cette femme de prédicateur est entrée un jour alors que son mari était en train de prêcher à l'église. Cette femme est entrée en pleine prédication avec plein de sacs, plein de bagages. Et elle est montée sur le podium comme ça alors que le mari était en train de prêcher. Il a regardé sa femme et a dit, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? La femme a continué, elle a ouvert les sacs, elle a sorti toutes sortes de marmites et d'ustensiles de cuisine. Elle a commencé à faire la cuisine sur l'estrade. Le mari a dit, mais chérie, enfin, qu'est-ce que tu fais? La femme lui a dit, continue toi, t'occupe pas de moi. Et la femme, elle a continué, elle a pris et sorti du poulet, elle a sorti des aliments. Mais enfin, chérie, qu'est-ce que tu fais? Et la femme lui a dit, c'est simple, à partir de maintenant, on va vivre ici. Elle a dit, mais pourquoi? Parce que ici, sur l'estrade, t'es un ange. Mais à la maison, t'es le pire des démons. Alors à partir de maintenant, on va vivre ici. Comment sommes-nous à la maison? Comment sommes-nous à la maison? Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que quand on croit dans le Seigneur Jésus, le Seigneur peut changer notre cœur et faire de nous de nouvelles créatures. Quand on croit dans le Seigneur Jésus, la communion est rétablie par Jésus avec Dieu le Père. Et quand nous croyons dans le Seigneur Jésus, l'amour est rétabli vis-à-vis de notre prochain. Et notre premier prochain, c'est notre épouse, notre époux, notre enfant, nos parents, nos premiers prochains. Et vous voyez le symbole de la croix de Jésus. Il y a le bois vertical, parce que la croix de Jésus nous unit au Père. Et il y a le bois horizontal, parce que la croix de Jésus nous unit les uns aux autres. Et nous nous aimons de l'amour de Dieu. Puisse le Seigneur nous bénir, nous et notre famille. Prions le Seigneur ensemble ce matin. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur et la louange. Nous te bénissons pour ta parole ce matin. Nous te bénissons pour l'œuvre de tes mains. Tu es vivant et tu es tout puissant. À ton nom et à ton nom seul, nous donnons gloire, honneur et puissance. Seigneur, notre cœur est devant toi et nous sommes ouverts à ta grâce. Daigne déverser ta bénédiction dans nos cœurs. Cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin et qui enrichit, Seigneur. Bénis les familles ce matin. Bénis, Seigneur, les époux, les couples. Peut-être que certains couples traversent des moments de ravage, des moments difficiles. Seigneur, étends tes mains et ramène l'amour là où il y a la dispute. Amène la réconciliation là où il y a la guerre. Guéris les couples ce matin, Seigneur. Je te prie pour les enfants, afin que tu ramènes des enfants à leurs parents et des parents à leurs enfants. Rétablis, Seigneur, la communication. Amène la réconciliation dans les maisons. Bénis les familles, Seigneur. Et que chacun de nous croit en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.